RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, rediffusion aujourd'hui de grands reportages en Syrie. Après la reprise d'Alep Est fin 2016 par les forces du régime syrien, dans les semaines qui ont suivi et malgré des conditions de vie très difficiles, plusieurs milliers de déplacés ont commencé à revenir dans des quartiers dévastés par la guerre. Certains sont revenus après avoir quitté Alep Est durant plusieurs années, d'autres n'auront fui la ville que durant quelques semaines, mais tous dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. En Syrie, à Alep Est, la vie dans les décombres, grand reportage de Daniel Valo, tourné en février dernier.
À Soukhari, l'un de ces quartiers d'Alep Est, dévasté par la guerre. Au milieu des décombres, une femme et ses trois enfants transportent quelques affaires dans une couverture poussiéreuse. Sur le bas-côté de la route, des monceaux de gravats, des blocs de béton, des amas de ferraille et de part et d'autre, des immeubles rasés ou à moitié détruits.
Je rentre chez moi, c'est par là, près de la mosquée. Là, je ramène quelques affaires, car on n'a pratiquement rien chez nous. Pas d'eau, pas d'électricité, on n'a pratiquement rien.
En décembre dernier, Amina est retournée vivre chez elle, dans l'un des rares immeubles de son quartier, épargné par les destructions. Avec ses enfants et son mari, elle est la seule habitante de ce bâtiment de 5 étages à être revenue depuis la fin de la bataille.
J'ai décidé de revenir dès que l'armée a libéré la zone. C'était très difficile, tout était détruit. L'armée nous a mis en garde contre les engins explosifs. Mais il fallait que je revienne, c'était très important pour moi. Je ne pouvais pas attendre davantage, alors je suis revenue à pied, sous la neige.
À l'intérieur, deux pièces plongées dans l'obscurité, quelques matelas dans un coin et des couvertures empilées sur une table. À cause du froid, nous explique Amina, nous sommes obligés de dormir tous ensemble dans la même pièce. Dès qu'elle arrive chez elle, la jeune femme déballe une petite batterie qu'elle est allée charger chez sa sœur, restée elle à Alep Ouest.
Pour l'électricité, c'est très difficile car il n'y a pas de générateur dans le quartier. Je suis obligée de traverser l'ancienne ligne de front et d'aller à l'autre bout de la ville pour trouver du courant. Cette batterie, je la branche sur cette lampe et comme ça, nous avons un peu de lumière. Là, j'ai assez d'électricité pour 2 ou 3 jours maximum.
Amina fait partie des habitants d'Alep Est qui ont quitté la ville dès que les rebelles s'en sont emparés en 2012. Avec son mari et ses enfants, elle a vécu à Tartous, puis à Damas et enfin à Alep Ouest. À son retour, en décembre dernier, 4 années s'étaient écoulées depuis son départ.
Il a fallu tout nettoyer, il y avait des débris partout, de la poussière. Mais nous avons eu de la chance car l'immeuble n'a pas trop souffert des bombardements. Quand je suis arrivée, il n'y avait qu'une seule personne dans le quartier. Maintenant, il y a 30 ou 40 familles, mais pas plus. Je pense que les gens reviendront au printemps et à l'été, lorsqu'il fera plus chaud.
Depuis le mois de décembre et la fin de la bataille, ce sont plusieurs milliers de civils qui sont ainsi revenus à Alep Est, dans des quartiers autrefois contrôlés par la rébellion et désormais sous la coupe de l'armée syrienne. Par conviction ou peut-être pour ne pas se mettre en danger, ces habitants revenus dans le giron du régime affirment qu'ils soutiennent sans réserve la lutte engagée par Bachar al-Assad contre la rébellion. Mais leur principale préoccupation au quotidien, c'est la survie dans ces rues désertes et rendues impraticables par les destructions. Premier obstacle, l'absence totale d'eau courante. Cette jeune femme, voilée de noir, s'efforce de porter jusqu'à chez elle 2 seaux d'eau qu'elle a remplis à ras-bord dans l'une des citernes installées par le Croissant Rouge.
Je viens ici 2 ou 3 fois par jour, toute seule ou avec mes enfants. Il y a un puits près de chez nous, mais il faut un générateur pour le faire marcher. Comme nous n'avons pas d'argent pour acheter du carburant, le puits ne marche pas et nous sommes obligés de venir ici.
« Pour survivre à Alep Est, il faut trouver de l'eau, mais aussi de la nourriture. Devant un bâtiment calciné, une ONG syrienne soutenue par le Programme alimentaire mondial offre un repas chaud aux habitants, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Armad, 61 ans, affirme attendre depuis 4 heures une gamelle en plastique sous le bras. Tous les jours, on fait la queue pour obtenir du pain, de la nourriture ou une bouteille de gaz. Quand il n'y a pas de distribution, je vais chercher des morceaux de carton pour les faire brûler. Je vais aussi chercher du bois dans les bâtiments détruits. C'est dangereux, mais pour nous chauffer, on n'a pas d'autre solution. Ma sœur me prête de l'argent de temps à autre pour que je puisse m'en sortir. Avec ma retraite, je peux tenir 5 jours à peine, car tout est très cher ici. C'est très dur, vous savez, j'ai 5 enfants à ma charge. J'essaie de les nourrir correctement, mais c'est très difficile.
Parmi les habitants revenus à Alep Est, certains avaient fui en 2012 dès le début de la guerre, soit par crainte des combats, soit parce qu'ils se sentaient menacés par les rebelles. D'autres, au contraire, sont restés jusqu'au bout dans la ville assiégée, malgré les privations et malgré les bombardements. C'est le cas de Mohamed, visage émacié, vêtements poussiéreux. Cet homme de 71 ans se considère aujourd'hui comme un rescapé.
Vivre à Alep Est, c'était comme vivre dans une prison. Il y avait très peu à manger, très peu d'eau, pas d'électricité et quasiment pas d'aide humanitaire. Pour acheter la moindre chose, il fallait dépenser une fortune. Et le plus dur, c'était de trouver de quoi manger. J'ai perdu 11 kilos et à la fin, ma femme ne pesait qu'une quarantaine de kilos à cause des privations.
Oui, pratiquement, quand on a 35 kilos, ça fait 30 kilos.
Devant son immeuble, Mohamed tente de déblayer les débris qui encombrent l'entrée. Le bâtiment est endommagé, mais il tient toujours debout.
Avec ma femme, on s'est installé ici il y a 5 ans, juste avant que les rebelles s'emparent du quartier. Regardez mon appartement au 5e étage. Il n'y a plus de portes ni de fenêtres. Tout a été détruit dans un bombardement. Ici, il y a eu beaucoup de victimes dans les bombardements. Mais nous, on est restés jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'armée entre ici le 13 décembre.
Nous sommes à présent sur la ligne de front qui séparait les deux zones durant la bataille. À l'est se trouvaient les rebelles, à l'ouest, les quartiers contrôlés par le régime. Au milieu, une large avenue et un terrain vague où s'entassent encore des dizaines de voitures calcinées. Sur le trottoir, Armad essaye de vendre quelques légumes jetés en vrac au fond d'une brouette.
Ici, auparavant, personne n'aurait osé s'approcher. C'était beaucoup trop dangereux. Regardez là-bas dans ces immeubles. C'est là que les rebelles s'étaient installés. Ils tiraient sur tout le monde, les militaires comme les civils. Ils avaient posté des snipers et des mitrailleuses lourdes. Il ne fallait surtout pas venir par ici.
Avant la guerre, cet homme de 41 ans travaillait dans un atelier de mécanique. En 2012, il fuit vers les zones contrôlées par le régime et s'installe dans un immeuble resté à portée de tir de la rébellion.
Regardez là, il y avait une bâche entre les immeubles pour qu'on puisse traverser la rue sans être pris pour cible. C'est l'armée qui avait installé ça pour qu'on puisse circuler plus facilement. Et puis là, dans ce mur, on a fait un trou pour pouvoir sortir plus tranquillement.
Armad nous emmène dans son appartement au 3e étage d'un immeuble dont la façade est criblée d'impacts de balles. À l'intérieur, quelques tapis mais quasiment pas de meubles. L'appartement est plongé dans la pénombre. Les fenêtres donnant sur l'avenue sont aujourd'hui encore obstruées par des parpaings.
Un jour, il y a eu des tirs à l'intérieur de l'appartement. Alors j'ai bouché toutes les ouvertures. Tous les voisins ont fait la même chose. On était obligés de le faire.
Malgré le danger, Ahmad décide de rester dans cet immeuble avec sa femme, sa fille de 10 ans et son fils de 9 ans. « Nous n'avions pas d'autre solution », nous explique-t-il. Faute d'argent, impossible de s'installer dans les quartiers plus éloignés de la ligne de front. À Alep Ouest, les prix de l'immobilier se sont envolés avec l'afflux de centaines de milliers de déplacés.
Les deux premières années, ça allait encore. Mais après, c'est devenu très dangereux. Plusieurs de nos voisins ont été blessés ou tués. Ma femme a perdu l'un de ses cousins qui a été tué juste en bas de chez nous. Il partait travailler, un sniper l'a touché à la jambe. Personne n'a osé lui porter secours parce que le tireur embusqué pouvait tirer de nouveau. Alors il a perdu tout son sang et il est mort comme ça, dans la rue. Il était âgé de 26 ans. Il avait une femme et deux enfants en bas âge.
La ligne de front qui coupait Alep en deux parties passait également par la vieille ville, un joyau culturel et historique avec son marché couvert, l'un des plus vieux au monde, avec sa citadelle médiévale et sa mosquée du XIe siècle. Aujourd'hui, la vieille ville d'Alep offre un visage de désolation et les habitants découvrent avec stupeur les dégâts provoqués par la guerre. Saba revient pour la première fois sur l'esplanade de la mosquée des Omeyyades. Devant elle, le minaret effondré, les murs criblés de balles et un sol abîmé par les gravats et par la ferraille.
C'est tellement triste, j'ai envie de pleurer quand je vois ce qui est arrivé ici. C'est notre civilisation qui s'est effondrée. Cette mosquée représente tellement de choses. L'histoire de nos ancêtres, l'existence de notre pays et tout notre patrimoine.
Comme la plupart des habitants d'Alep qui reviennent dans la mosquée, Saab est venu en famille. Ses enfants et son frère Mofak décident de se prendre en photo devant le bassin où se pratiquaient les ablutions. Son toit en bronze est perforé, mais l'édifice est encore debout. Mofak se dit lui aussi profondément choqué par l'ampleur des destructions.
Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de dégâts. C'est vraiment douloureux. Ici, même autrefois, il y avait des centaines de touristes, des Syriens comme des étrangers. Et regardez maintenant, tout est détruit.
Non loin de la mosquée des Omeyyades, le souk de la vieille ville offre lui aussi un visage de désolation. Durant la bataille, l'armée syrienne et les rebelles se sont affrontés pied à pied dans ces galeries désormais silencieuses. Un véritable désastre, nous dit ce commerçant venu contempler dans l'obscurité les restes de son ancienne échoppe.
Je ne trouve pas les mots pour dire ce que je ressens. Auparavant, c'était un endroit plein de vie, de jour comme de nuit. Tous les commerçants se connaissaient, l'ambiance était vraiment extraordinaire. J'espère qu'un jour, le souk retrouvera toute sa beauté. Mais il va falloir des années pour reconstruire.
Des années pour restaurer la vieille ville d'Alep, mais aussi pour reconstruire les quartiers qui l'entourent et le tissu industriel qui était autrefois le plus dynamique de Syrie. Mais combien de temps, combien d'argent faudra-t-il pour reconstruire Alep ? Fares Al-Shebabi, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alep, le reconnaît lui-même. Il est encore trop tôt pour le savoir.
Nous estimons qu'il faudra au maximum 10 ans pour rebâtir la ville. Notre situation est similaire à celle de Berlin après la Seconde Guerre mondiale. Rien que pour l'industrie, les dégâts vont de 20 à 30 milliards de dollars. Nous avions 35 000 entreprises industrielles et la plupart d'entre elles ont été pillées ou détruites. Quant au patrimoine historique, il est inestimable. Néanmoins, une fois que la reconstruction aura débuté, je pense que les choses vont aller rapidement. Donc je crois qu'il nous faudra au maximum 10 ans. Mais vous dire combien d'argent cela va coûter, c'est impossible. Personne ne peut le dire.
Avant même de s'atteler à la reconstruction, les autorités syriennes vont devoir régler deux problèmes cruciaux pour les habitants d'Alep, les pénuries d'eau et d'électricité. Les infrastructures qui entourent la ville ont en effet été détruites par la guerre et certaines installations sont toujours occupées par le front Al-Nusra ou par l'organisation de l'État islamique.
Le gouvernement essaie de raccorder Alep au réseau électrique, mais cela va prendre plusieurs mois avant que la situation ne s'améliore. En ce qui concerne l'accès à l'eau courante, la seule solution sera une solution militaire. Nous devons libérer le barrage occupé par l'organisation de l'État islamique sur l'Euphrate. C'est la seule solution. Il est impossible de négocier avec eux. Nous devons nous emparer de ce barrage, et c'est ce que nous avons l'intention de faire.
And this is what we're planning to do. La victoire du régime à Alep-Est n'a pas mis un terme aux opérations militaires dans la région. Les rebelles ont quitté la ville, mais ils conservent des positions dans des zones rurales situées à l'ouest. Et dans certains secteurs d'Alep, les habitants restent à la merci des roquettes et des obus de mortier tirés par la rébellion. C'est le cas dans le faubourg d'Amdaniyeh, situé en périphérie de la ville, à quelques kilomètres seulement de l'actuelle ligne de front. Sur place, nous rencontrons Hassan, un jeune habitant du quartier.
Hier, ils ont tiré une rafale d'obus, vers midi. Deux femmes et un homme ont été tués sur le coup. Cela arrive souvent ici. Les rebelles n'en ont rien à faire s'ils tuent des femmes ou des enfants.
Comme la plupart des habitants d'Alep Ouest, Hassan affiche des convictions pro-régime et qualifie de terroriste l'ensemble des rebelles.
C'est le front Al-Nusra qui fait ça. Ils sont là-bas, à quelques kilomètres. Ils font ça pour se venger, parce que notre armée est en train de regagner du terrain dans toute la province d'Alep. Nous espérons que notre armée réussira à se débarrasser d'eux.
Nous sommes à présent à 15 kilomètres d'Alep, dans le camp de déplacés de Djibrin. En décembre dernier, à la fin de la bataille, c'est ici que se sont installés les dizaines de milliers de civils évacués par l'armée syrienne. Des entrepôts désaffectés dans une zone industrielle située non loin de l'aéroport. Yana, Mohamed et leurs 7 enfants vivent ici depuis 2 mois. Une simple pièce de béton, quelques matelas dans un coin et sur un mur, le portrait de leur fils aîné tué en 2013 dans un bombardement de l'aviation syrienne.
Nous étions chez nous et ils ont bombardé l'immeuble d'à côté parce qu'il y avait des rebelles à l'intérieur. Mon fils a été touché par des éclats à la tête et au bras. C'est comme ça qu'il est mort. Il avait 18 ans.
Avant d'être évacués, Yana et Mohamed auront tenté à 2 reprises de fuir la ville et les combats. À chaque fois, nous disent-ils, ce sont les rebelles qui les ont empêchés de partir.
Ils nous ont arrêtés et ils nous ont dit que personne n'allait sortir. Il y avait beaucoup de monde qui voulait fuir, mais à chaque fois, ils tiraient en l'air pour nous faire peur. Ils nous disaient, tant que nous resterons ici, vous resterez avec nous.
Finalement, en décembre dernier, Yana, Mohamed et leurs enfants parviennent à fuir la ville. La rébellion est alors sur le point de s'effondrer devant l'avancée de l'armée syrienne et de ses alliés. Et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui rejoignent, malgré le danger, les zones contrôlées par le régime.
Nous sommes partis 1 heure avant le coucher du soleil. Ils nous ont dit qu'un passage était ouvert et qu'on pouvait sortir. On a juste pris nos vêtements et on est partis. On a marché jusqu'à la ligne de front où des bus nous attendaient. Pour y parvenir, on a dû marcher pendant une heure et demie. C'était terrifiant. Il y avait des tirs de mortiers dans tous les sens. On a cru mourir plusieurs fois. Mais finalement, grâce à Dieu, nous avons survécu.
Depuis le mois de décembre, plusieurs milliers de déplacés ont pu quitter le camp et retourner vivre chez eux à Alep Est. Mais Yana et son mari Mohamed font partie de ceux qui ont tout perdu dans la bataille et qui n'ont pas d'autre solution que de rester ici.
Là-bas, il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, et puis notre appartement est inhabitable maintenant. Il a été endommagé par les bombardements. Il faudrait de l'argent pour faire des travaux, mais on n'a plus rien. On est parti avec nos vêtements sur le dos, c'est tout.
Nous voulons rentrer, mais nous savons qu'il va falloir attendre encore plusieurs mois. Nous resterons ici jusqu'à la fin de l'hiver. Ensuite, au printemps ou à l'été, si Dieu le veut, nous rentrerons chez nous. De toute façon, rien ne remplacera notre foyer.
Alep Est, la vie dans les décombres. Reportage Daniel Valo, réalisation Lorenzo Lacchesi-Danet.